Vous êtes sur RTL.
RTL.
Ma cinéphilie m'apporte beaucoup parce qu'elle vit avec moi.
12h30, 13h30.
C'est ma nourriture, le cinéma.
Le journal inattendu de Dominique Besnéard.
Je vis que pour ça. Il y a des gens qui deviennent curés, qui répondent à un sacerdoce. Moi, c'est le cinéma.
Avec Ophélie Meunier sur RTL.
Parce que j'aime la vie, donc en aimant la vie, on aime le cinéma. Tandis qu'on peut aimer le cinéma et ne pas aimer la vie. On dirait un titre de Claude Lelouch.
Bonjour Dominique Besnéard, bienvenue dans le journal inattendu. On est ensemble une heure en direct et c'est vous qui prenez les commandes de l'émission.
Bonjour.
Dominique Besnéard, votre voix, votre ton, si identifiable, vous êtes indissociable des plus grandes stars du cinéma français. Vous êtes 10%, série qui cartonne depuis 5 saisons. Vous êtes un familier pour nous et vous êtes aussi Art Media, fameuse agence artistique, la plus grande fournisseuse de talents pendant 40 ans. Art Media, c'est une idée de génie, avec à sa tête des personnages hauts en couleur, une sacrée réussite que vous racontez dans votre dernier livre, coécrit avec la journaliste Nejma Van Egmond. C'est passionnant, truffé d'anecdotes, de témoignages, et ça nous plonge, non sans plaisir, dans ce cinéma qui nous fait rêver. Ce journal inattendu sera l'occasion de vous découvrir à travers vos passions, vos engagements, vos inspirations musicales et cinématographiques bien sûr, mais aussi l'invité que vous avez choisi, la grand reporter Florence Aubenas. Elle nous rejoindra juste après 13h. Mais d'abord, vous connaissez bien l'émission, alors vous savez que pour commencer, il faut se prêter à l'exercice de l'autoportrait. Je vous donne une minute pour vous présenter. Alors Dominique Besnéard, qui êtes-vous ?
Bonjour, je suis du signe du Verseau, né le 5 février 1954 à Bois-Colombes, le jour de l'inauguration de l'Olympia avec le débutant Gilbert Bécaud en levée de rideau. Et né dans la conception d'une paire de jumeaux, je découvre la vie par les pieds, avec cet accouchement par le siège qui provoque beaucoup de douleur pour ma mère et beaucoup de panique pour mon père. Manière déjà de me faire remarquer. Récemment, je confiais à Nejma, ma co-auteure et psychanalyste de circonstances. À 67 ans, je suis resté le jeune garçon qui passait des heures plongé dans des revues de cinéma à découper les photos de mes idoles. Casting, agent, acteur, producteur, ami des talents du plus débutant au plus célèbre. Il me semble encore parfois de ne pas en revenir vraiment d'être de ce monde du spectacle. Jamais blasé, toujours enthousiaste, jovial et curieux, survolté, loyal, l'épaule douce avec mes amis, la dent dure avec ceux qui me font défaut. Je déteste pourtant entretenir la rancune et je n'en veux à personne de se moquer de mon cheveu sur la langue. Il est recommandable, reconnaissable, mais recommandable à mille lieues.
Ce zozotement, on ne peut plus s'en passer. Je vous rassure, avant de continuer à parler de vous et de votre dernier livre, voici les grands titres de l'actualité de ce samedi. C'est un 1er mai symbolique. Après une année confinée, les syndicats retrouvent les rues. Des rassemblements interprofessionnels sont prévus aujourd'hui dans plusieurs grandes villes de France. Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé depuis Lille, vous l'entendrez. Et nous serons aussi à Toulouse, au milieu d'un cortège. Si vous n'avez pas encore offert ou reçu votre brin de muguet, je rappelle que c'est tout à fait possible. Les fleuristes sont ouverts. Commerçants et clients en sont ravis et en profitent. Reportage dans un instant près de Tours. Une nouvelle accélération de la vaccination avec 4 millions de Français supplémentaires qui peuvent aller depuis ce matin recevoir leur dose de sérum. Et puis du côté du déconfinement, ce sont les hôteliers qui soufflent car ils pourront dès le 19 mai ouvrir leur restaurant intérieur à leurs clients. Dans ce journal, toutes les affiches sportives du jour, en foot notamment, un PSG Lens sans Mbappé. Et puis les nouvelles du temps, c'est avec vous. Bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
C'est gris et pluvieux et ça va durer tout le week-end.
Ouais, alors surtout dans le sud, il tombe des seaux d'eau depuis plusieurs jours déjà et ça se confirme encore aujourd'hui. Toutes les régions méditerranéennes mais aussi le massif central, la région Rhône-Alpes et des pluies qui remontent jusqu'aux portes du Jura et même du sud de l'Alsace, il va pleuvoir fort tout l'après-midi. Il n'y aura pas trop de vent. On va avoir de la neige en moyenne montagne, vu l'état des températures. Et ailleurs, on repasse sous un régime d'averse. Alors, principalement entre la région centre, le bassin parisien et le nord. Mais plus on va aller vers l'ouest, plus on a des chances de trouver quand même des éclaircies pas vilaines du tout, sachant qu'on a 2-3 grains orageux qui circulent entre la Vendée et le Bordelais. Ça, c'est pareil, ça pourrait durer un moment. Les températures, donc, un petit 13 à Lille et à Grenoble cet après-midi, 14 à Paris et Dijon, 15 à Brest, à Nancy et à Limoges, 16 pour Perpignan et Bordeaux, 20 degrés pour Ajaccio.
Merci Valérie. Chers auditeurs, j'espère que vous êtes bien installés au chaud chez vous pour nous écouter du coup. Et à 13h, c'est vous, Dominique Besner, qui nous donnerez la météo.
D'accord.
Et ben voilà.
Le journal inattendu sur RTL.
Dominique Besnéard, Ophélie Meunier.
C'est la deuxième année que les travailleurs vivent un 1er mai sous Covid. Privés de rassemblements en 2020, les syndicats réinvestissent les rues aujourd'hui. Les défilés ont démarré ce matin à Marseille et à Lille, notamment mobilisation interprofessionnelle, mais aussi politique. Tous les ténors de la gauche étaient là, avec en tête de cortège Jean-Luc Mélenchon, patron de la France Insoumise. Écoutez.
J'ai un vœu à faire pour la classe ouvrière, les salariés, les travailleurs, les gens humbles qui vivent seulement de leur travail et qui espèrent en vivre dignement pour eux et leurs enfants, être libérés de la peur du chômage, être libérés de la peur du licenciement, être libérés de la peur du lendemain, car demain pourrait être beau, demain pourrait être lumineux. Alors je vous souhaite que le 1er mai 2022, je puisse revenir vous voir comme président de la République, ayant rétabli les 8 heures de travail, ayant rétabli les 35 heures, ayant rétabli la retraite à 60 ans.
Quel lyrisme, Dominique Besnéard.
Oui, très, très, très bon acteur, mais il serait le pire président qu'on pourrait avoir. Il ne peut pas s'empêcher de faire un grand numéro, là. Mmh. Et imaginez quelqu'un comme ça dans cette situation-là, actuellement. Bon, tout n'est pas parfait avec Macron et avec le gouvernement, mais imaginez quelqu'un comme ça, mais ça serait dramatique. Et moi, vraiment, je suis de gauche, mais cette gauche-là, c'est incroyable, il fait ça le même jour que Marine Le Pen. Le 1er mai, je pensais que c'était le jour de Marine Le Pen.
C'est son jour aussi, Marine Le Pen, après avoir déposé une gerbe au pied de la statue de Jeanne d'Arc, place des Pyramides à Paris. C'est vers la présidentielle aussi qu'elle s'est directement projetée. On écoute la patronne du Rassemblement National.
Nous venons de vivre 4 ans de chaos, de désunion, de fragmentation. C'est un mandat de violence, et particulièrement, il faut bien le dire, de violence à l'égard du peuple français. Et c'est la raison pour laquelle je suis convaincu que je serai élu président de la République. Et il ne restera du mandat d'Emmanuel Macron que cette impression, encore une fois, de désunion, de destruction. Moi, je veux être la présidente de la paix civile et du Rassemblement national, voilà, et de l'Union nationale. Et il y a beaucoup à faire pour retisser ce qu'Emmanuel Macron a consciencieusement déchiré pendant 4 ans.
Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national. Des défilés partout en France, je le disais. On retrouve à Toulouse Pierre Collat, au milieu d'un cortège de syndicats et de travailleurs bien décidés à montrer qu'ils sont là.
Oui, et malgré le mauvais temps et l'absence de transport, le cortège est imposant sur les boulevards de Toulouse. En tête, les drapeaux de la CGT, tenus par Natacha Paumé.
Les salariés ont besoin d'avoir des salaires décents, de réduire leur temps de travail et d'améliorer leurs conditions de travail. Ce retour aujourd'hui dans la rue pour ce 1er mai 2021 est plutôt le bienvenu.
Un retour bienvenu également pour Romain, il travaille dans les télécoms.
Il y a des travailleurs dans les siècles précédents qui se sont battus pour pouvoir avoir des journées de travail d'uniquement de 8 heures. Et tout ça, ça a été largement oublié. Donc c'est un rappel.
Le cortège progresse dans le calme pour le moment, avec en queue de peloton le monde du spectacle qui a sorti les grands monstres de carnaval pour l'occasion.
Sachez qu'à 14h, un gros rassemblement est prévu à Paris. 15 000 personnes sont attendues et un important dispositif de sécurité sera déployé. Les autorités craignent l'arrivée de quelques éléments radicaux. Le 1er mai, c'est aussi le brin de muguet, bien sûr. Un moment important pour tous les fleuristes qui, vous le savez, ont la chance d'être ouverts en tant que commerces essentiels. Nous rejoignons Christian Panvert à Saint-Avertin, près de Tours. Bonjour Christian.
Bonjour Ophélie.
Alors Christian, vous avez passé la matinée auprès d'un fleuriste heureux, mais aussi de clients venus nombreux pour ce 1er mai tout particulier.
Je suis avec Eleanor, elle a 16 ans, elle tient serré dans sa main droite un bouquet de muguet.
Pour moi, oui, c'est important. Après, c'est surtout parce que c'est l'anniversaire de ma maman, donc du coup, c'est une sorte de petit cadeau traditionnel, mais bon, moi, du coup, c'est personnel. Je ne sais pas vraiment comment on voit si ça porte bonheur ou pas.
Alors comment sait-on si le brin de muguet portera bonheur ou pas? Eh bien j'ai demandé à Henri Laprelle, le gérant de la cabane végétale.
S'il a 13 clochettes, c'est mieux. L'idée c'est surtout l'intention d'avoir une fleur qui porte bonheur. Et c'est typiquement français.
Yves a la soixantaine, il a acheté plusieurs bouquets.
Pour ma femme, mes filles, ma belle-fille et ma petite-fille pour la première fois.
1er mai 2021, il est symbolique.
Bah oui, c'est un peu le redémarrage après un an difficile. Et j'espère que ce muguet nous apportera tous un peu de bonheur et de sérénité à toute la France.
Henri le fleuriste vient d'en trouver un à 13 clochettes. Il sait déjà ce qu'il va en faire.
Et bah du coup, on va le faire sécher et puis ça va pouvoir me servir de marque-page pour le livre de Dominique Besner que je vais entamer demain.
Quelle publicité, hein.
Sympa.
Mais moi, je trouve que ce matin, en venant à RTL, j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de marchands ambulants sur les trottoirs. Moi, j'habite face à la Fnac des Termes, donc d'habitude, il y en avait toujours.
Alors, pour tout,
il n'y a peut-être pas assez de muguet aussi, non?
Pour tout dire à nos auditeurs, entre Terne et RTL, il n'y a pas beaucoup de route, hein. Vous êtes
oui,
à 5 minutes.
Oui, mais d'habitude, il y en a plein. Est-ce qu'il y a eu assez de muguet? Parce qu'ils ont quand même souffert avec le froid.
Avec les intempéries. En tout cas, les fleuristes, on l'a entendu, sont heureux et les clients
aussi.
Tant
mieux.
Merci à Christian Panvert. Dans un instant, on fait le point sur la vaccination contre la Covid qui s'accélère sérieusement. A tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Dominique Besnéard et Ophélie Meunier.
La suite du journal avec le calendrier vaccinal qui passe une nouvelle fois à la vitesse supérieure ce week-end. Depuis ce matin, il y a du nouveau. 4 millions de personnes supplémentaires ont accès au vaccin. Il s'agit de tous les adultes, il faut donc avoir au moins 18 ans, qui présentent une pathologie. Cela peut être de l'hypertension, du diabète, une maladie cardiaque ou encore de l'obésité. Prochaine étape, le 19 juin. Tous les adultes français pourront se faire vacciner librement. Concernant le calendrier du déconfinement, la nouvelle information de la matinée concerne les hôtels. En même temps que la réouverture des terrasses le 19 mai, les hôteliers pourront rouvrir leur restaurant à l'intérieur, uniquement pour leurs clients. Petit déjeuner, déjeuner et dîner pourront donc être servis assis et à table. Et puis en Californie, aux États-Unis, c'est l'excitation. Depuis que Disneyland a décidé de rouvrir ses portes, c'est extrêmement symbolique. Le deuxième parc d'attractions le plus visité au monde va enfin retrouver ses clients et ses fans très impatients. Écoutez.
La magie est de retour, vous pouvez la sentir. Pouvoir marcher à nouveau le long de Main Street, c'est incroyable. En tant que papa, je me sens en sécurité ici. Il y a des marqueurs pour respecter les distances, les masques, du plexiglas. C'est juste génial d'être ici à nouveau.
Je vous garantis qu'on va pleurer avec ma famille. Et je peux même sentir mon cœur s'emballer alors que j'en parle.
J'ai dit Californie. C'était Floride, bien sûr. Propos recueillis par Karine Noten pour RTL. Pour le moment, la jauge est réduite. Le parc affiche déjà complet pour les 7 prochaines semaines. C'est un week-end chargé en sport. On commence avec le football et la 35e journée de Ligue 1. Soirée mitigée pour Marseille hier qui termine avec un match nul face à Strasbourg. Un partout pour le moment. L'OM reste hors de la course à l'Europe. Toujours en Ligue 1 à 17h, Paris reçoit Lens. Le PSG jouera sans Kylian Mbappé qui a une contracture et qui se repose avant le prochain match de la Ligue des champions. Le PSG a par ailleurs condamné fermement les tags insultants retrouvés sur le car du RC Lens cette nuit. Le club de la capitale, écrit-il dans un communiqué, se réserve le droit de prendre toutes les sanctions s'il apparaît que certains de ses supporters sont associés à cet acte honteux. L'autre affiche du jour en Ligue 1, c'est Lille-Nice à 21h. Tous les débriefs foot, c'est dans On refait le match à 18h avec Christian Olivier. Et puis dans RTL Foot à partir de 20h. Un mot de basket, un grand bravo à Monaco qui a remporté l'Eurocoupe face au club russe de Kazan. Les Monégasques deviennent le premier club français à remporter ce deuxième échelon européen derrière l'Euroleague depuis 1988. Et est-ce que le 19 mai, Dominique Besnéard, vous serez au cinéma?
Oui, dès la première
j'avais
projection.
J'avais une idée de votre réponse.
Ben oui, c'est parce que franchement, ça c'est quand même une, ça va faire repartir le cinéma. Je pense que les gens, parce qu'il y a le doute de se dire, est-ce que avec les plateformes, avec tout ce que les, le d'être devant son grand écran à la maison, est-ce que on a encore
envie? Et une mutation de la consommation, c'est
ouais,
sûr.
Mais moi, je pense que le besoin de se retrouver ensemble. et de lever la tête pour voir des grands écrans et pour aussi pour se dire on a besoin d'être ensemble, voilà. Et donc moi je suis assez confiant parce que dans notre métier et puis surtout il y a de découvrir tous ces films qui sont sur les étagères. Hein. Mmh. On dit qu'il y a 200 films français qui n'ont pas encore doivent être revus, plus les sorties arrêtées, repoussées. C'est
ça
vraiment
va être quand même une sacrée galère au niveau des sorties, j'imagine.
Oui, ça va être vraiment l'embouteillage. Alors je sais pas comment ils vont organiser ça, parce qu'il y a des, par exemple, il y a certains films comme Garçon chiffon, c'est un film qui me touche parce que il y a Nathalie Baye dedans, il est sorti une journée. Il y en a plein comme ça et il faut quand même lui donner un peu sa chance. Et puis beaucoup d'autres films, le film de Mai Wen, voilà. Donc j'espère que il va y avoir une espèce d'orchestration et des sorties et que ça soit pas un peu l'embouteillage mal géré, voilà.
En attendant le 19 mai, à tous ceux qui sont en manque de culture en ce moment, je sais qu'on est nombreux, plongez-vous dans ce livre « Art Média, une histoire du cinéma français » aux éditions de l'Observatoire. C'est votre dernier ouvrage, Dominique Besnehr, que vous co-signez avec Nejma Van Egmont, journaliste et écrivain. Art Média a été l'agence artistique qui a repéré, fait grandir et fourni le plus d'acteurs et d'actrices de l'histoire du cinéma français. Art Média, c'est l'agence qui a inspiré la fameuse série 10%, dont vous êtes le producteur. Vous y avez travaillé pendant 20 ans. Déjà, à vous, personnellement, qu'est-ce que ça vous a fait de vous replonger dans ces 20 années si marquantes de votre vie? Est-ce que c'était facile, agréable, thérapeutique?
Ça m'a fait souvent penser à des choses que j'avais oubliées, puis surtout de le faire avec Nejma, qui, elle, faisait l'enquête, parce que moi, c'était compliqué pour moi d'aller interviewer les gens avec lesquels j'avais travaillé parce que fallait quand même être assez un besoin
d'objectif.
Ouais. Et donc elle l'a fait très très bien et elle m'apprenait des choses et bien sûr moi je lui apprenais beaucoup puisque je connaissais l'historique. Mais ce qui a été bien, c'est qu'on a commencé à interviewer la première qui s'appelle Josette Arrigonnet, qui était l'agent à l'époque de Gérard Philippe et de plein de gens, donc elle connaissait tout le TNP noir et tout. Donc elle a été très une agent pendant jusqu'à plus de 80 ans, donc elle nous a tout raconté, Belmondo, Gabin, et puis ensuite on a vu Jean-Louis Lévy, et puis ensuite on a vu plein de gens qui ont connu Gérard Lebovici, parce que quand même c'est Gérard Lebovici.
Alors justement,
qui est le nerf de ce
le
livre.
Le fondateur. Oui. Le livre se découpe en trois grandes parties. Il y a d'abord l'ère Lebovici, je dirais. Évidemment, on ne peut pas parler d'Art Média sans parler de lui. C'est un sacré businessman avec une histoire extrêmement singulière, car en fait, avant d'être agent, c'est un peu un acteur contrarié,
oui,
Gérard Lebovici.
Exactement. Il était au Cours Simon avec Michel Méritz, avec Serge Rousseau, qui eux sont devenus comédiens. Et lui, bon, je pense qu'il avait aussi des problèmes de famille. Sa mère avait été morte en Caen. Donc, il s'occupait de son père, l'entreprise de son père. Donc, à un moment donné, il était à la fois obligé de s'occuper du truc familial et en même temps il voulait être acteur, mais il a senti très vite qu'il serait pas tout de suite le premier. Et je pense que cet homme
il
voulait être le premier, et surtout je crois qu'il a fait que on est passé de l'impresario un peu caricatural avec des valises où le talent à 10% et l'agent 90%, il a professionnalisé ça et fait que c'était sérieux, et de tout d'un coup il a fait une agence sous le modèle américain.
Alors,
et
donc, voilà. Justement, vous parlez de l'impresario qui est devenu l'agent façon Art Média, je dirais. Page 127 de votre livre, vous dites que l'agent façon Art Média, c'est un psychanalyste, un officier de police, une nounou, un ami, une bonne fée, et surtout, son rôle est différent selon les personnes qui l'accompagnent et selon les moments. Quel rôle ? C'est prenant, ça, humainement.
Et tout ça seulement pour 10% quand même. C'est beaucoup d'activité, parce que aux États-Unis, vous savez, un acteur, il a un agent, il a un juriste, il a quelqu'un qui soit un publiciste. Tout ça, à chacun, il donne 10%. Nous en France, quand même, on dit quelquefois, les acteurs disent quand je pense que je te donne 10%, ben oui, mais c'est quand même un vrai travail. Non, officier de police, je sais pas pourquoi on a dit ça, mais peut-être parce que aussi quelquefois fois, j'avais des acteurs à l'époque où quand je suis rentré chez Armédia, qui étaient un peu qui prenaient un peu des bêtises et qui étaient un peu addicts. Et quelquefois, j'ai recevé des coups de fil de brigades en disant on a arrêté votre acteur avait de la coke dans les poches. Mais sinon, c'est pas vraiment la chose. Mais sinon, c'est vrai que c'est un conseiller d'abord artistique, un conseiller économique et surtout un soutien, un compagnon. C'est quelqu'un qui est toujours avec un acteur ou un metteur en scène. Alors les metteurs en scène, ils prennent moins de temps parce que quand ils écrivent ou ensuite quand ils réalisent, ils appellent pas l'agent tous les jours. Ils appellent quand généralement pour monter le premier pré-montage, voilà. Mais ensuite
à des étapes bien précises. Tandis qu'avec les acteurs,
c'est presque du quotidien. Et puis il y en a qui exagèrent, il y en a qui n'appellent jamais parce qu'ils ont confiance, mais il y en a qui ont des doutes. Et surtout, moi, je vais vous dire, à notre époque où c'est de plus en plus dur, donc il y a de moins en moins de la confiance. Moi, je suis parti au bon moment. J'ai senti que la fidélité allait se perdre chez les acteurs, que dès qu'il y aura un problème, ils iraient chez le voisin. Et quand on a travaillé beaucoup avec quelqu'un qu'on y a cru et qu'au du jour au lendemain, parce qu'ils pensent que c'est mieux dans l'agence concurrente, ils vous lâchent, il y a des blessures.
Hein. C'est très intéressant. Vous parlez de votre départ d'Armédia, mais on va quand même parler de ces 20 années où vous avez œuvré chez Armédia, où vous êtes devenu finalement aussi star, voire plus star que certaines stars. Mais dans ce journal inattendu, on découvre aussi vos inspirations musicales. Eddie De Pretto.
Ah, je suis fou. Ah, ouais. Mais moi, je l'ai découvert très tard, hein, parce que je l'ai découvert pendant le confinement. J'avais vu un personnage un jour à la télévision et je l'avais trouvé, je sais pas, j'avais pas accroché. Et je trouve qu'il était faisait un peu des manières. Et après, je l'écoutais, mais franchement, je trouve qu'il a un côté. Il y a un côté Léo Ferré. Léo Ferré, là, dans cet extra, toute la période 70. Et moi, je suis fou de lui. Maintenant, je l'écoute en boucle.
Et on écoute Bec
ou Bouche. Je m'excuse de ne pas l'avoir découvert un peu tard.
Ah, très bien. Et il l'entend.
Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idole, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne.
On se retrouve dans un très court instant sur RTL. A tout de suite pour la suite du journal inattendu de Dominique Besnier.
Je me voyais déjà en haut et c'était beau.
12h30, 13h30.
Le journal inattendu de Dominique Besnéard
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Je voudrais en venir à votre histoire, Dominique Besnéard. Et pour ça, j'aimerais qu'on écoute un petit extrait du film La Drôlesse de Jacques Doyon.
Et toi, Mado, tu n'écris rien?
J'aime pas ma mère.
Silence.
On n'a pas de photo, on n'a pas de fiancé.
Bah, tu ne pas discuter. Tu fais plus dicter, tu te laves plus, tu ne coiffes plus. Tu ranges rien.
Tu dis aussi que je te tape dessus, pour qui?
Oui, hier soir.
T'as vu tes grandes mains, moi mes petites mains? C'est plutôt moi qui me fais mal. Petite et grosse sardine.
C'est toi la grosse sardine.
Évidemment, ce n'était pas un film et un réalisateur choisi au hasard. Jacques Doyon a eu une place toute particulière dans votre vie. Il vous a imposé comme assistant, vous avez bossé ensemble 10 ans. Doyon vous a confié tous ses castings. Il a joué un rôle essentiel dans votre carrière.
Ah oui, il m'a permis de faire ce métier en me donnant l'occasion de faire mon premier casting, Le Sac de Billes, où j'ai participé à la recherche des enfants. Et surtout, j'ai fait tout le tournage. Donc j'étais heureux. Je pense que je me souviens de chaque moment de ce tournage, parce que si on s'en souvient après, il y a eu certainement d'autres tournages où j'ai été marié, mais là c'est le déclenchement de ma carrière. C'est comme la chanson d'Eddie Pretto quand j'étais jeune, et voilà. Bon, et là, si vous voulez, ce que j'ai aimé, je travaillais avec lui parce que c'est la personne peut-être le meilleur cinéaste pour les enfants, parce que il a une façon de les diriger, de leur donner confiance. Par exemple, La Drôlesse, on avait fait des essais et avant qu'il arrive, et moi je disais, elle est parfaite physiquement, elle ressemble à une petite Simone Signoret, mais on pourra pas la prendre parce qu'elle est pas assez juste. Et lui, il a passé du temps avec elle, une heure ou 2 heures avec elle, en Normandie, dans un endroit assez précaire. Et il est revenu, il a dit c'est elle. Je dis, mais Jacques, il me dit, c'est... Et en fin de compte, jouer la comédie pour les enfants ou pour les adolescents, c'est la confiance aussi. C'est pas forcément être juste tout de suite, mais d'être vrai. Et donc, Jacques, après, et surtout Jacques, ça m'a aussi permis de rencontrer Claude Berry sur le sac de billes, qui a dit, mais qui c'est celui-là qui va chercher dans les campings des Allemands pour jouer des officiers allemands et leur couper les cheveux. À l'époque, c'est tout le monde avait les cheveux longs en ayant une prime supplémentaire. Et quand il a vu que toute la figuration parlait allemand, il a dit, mais donc ça m'a permis aussi d'avoir son assentissement et ensuite j'ai travaillé beaucoup avec Claude Berry, qui a été aussi la deuxième personne à me faire très confiance.
Il y a des histoires successful et puis il y en a des plus difficiles. Dominique Besnard, vous avez aujourd'hui souhaité mettre un coup de projecteur sur une association qui vous tient particulièrement à cœur, La Roue Tourne. Elle a été créée en 57 et vient en aide aux artistes dans le besoin. Avec le temps, l'association est devenue essentielle à de nombreux professionnels du spectacle, comédiens, chanteurs, techniciens. Avec la crise de la culture que nous traversons, sa mission est plus que jamais nécessaire. C'est votre reportage inattendu, il est signé Nathan Bocard.
Merci. Et pour comprendre l'esprit de La Roue Tourne, il faut d'abord se pencher sur son histoire, une histoire que Jeannine Chaponnet connaît mieux que personne. Elle a 94 ans, ça fait 30 ans qu'elle est secrétaire générale de l'association et son appartement à Pigalle est un vrai musée de La Roue Tourne.
Je voulais vous montrer, ce sont des foulards offerts par Jean Cocteau pour La Roue Tourne et qui nous avaient permis à l'époque de financer les aides. À l'époque, il n'y avait pas les structures sociales qu'on trouve actuellement qui aident le monde du spectacle en général.
Mais la vente de foulards ne paye pas toutes les aides. Heureusement, La Roue Tourne a toujours pu compter sur le soutien de grands noms du spectacle français.
Jean Marais, Jean Cocteau, Fernandel, la grande Maria Schneider.
Aujourd'hui encore, La Roue Tourne a des parrains comme Serge Lama ou Brigitte Bardot. Tous ont leur portrait affiché dans les locaux de l'association où nous accueille sa vice-présidente Jacqueline Renaud. Pour payer le loyer et verser les aides, elle compte avant tout sur la générosité.
Nous faisons appel aux dons de particuliers, d'artistes qui ont la chance, entre guillemets, d'avoir un travail. Et ces dons sont redistribués, bien sûr, à nos protégés. Il y a de tous âges, des musiciens, des chanteurs. Ça peut être un éclairagiste sur les plateaux de télé ou de cinéma. Donc, ces gens qui font partie du métier. Malheureusement, avec ce virus, il n'y a plus de spectacles. Les concerts sont annulés, les spectacles sont annulés. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien.
Ce jour-là, Jean-Claude Gobbe, un protégé, comme les appelle Jacqueline Renaud, passe au foyer pour récupérer son chèque d'aide.
Bonjour.
Il est musicien et comédien.
En ce moment, pour les artistes, c'est vraiment pas la joie. La Roue Tourne, ce sont vraiment des gens formidables. Ils m'ont beaucoup aidé. Ça, j'espère un jour pouvoir les rendre la monnaie. Si ça marche pour moi, pourquoi pas, ce serait bien que je sois un moment de l'autre côté de la barrière.
Toutes ces personnes vous connaissent, Dominique Besnéard. Jeannine Chaponnet était d'ailleurs ravie de votre choix de reportage. Et au nom de l'association, elle a une petite question pour vous.
Est-ce qu'on va se voir bientôt?
Oui, je vous promets. Mais moi, je vous l'ai dit, j'aimerais bien m'engager plus parce qu'il n'y a pas... Bon, moi, il n'y a pas ces gens jeunes ou même de ma génération pour soutenir. C'est vrai qu'il faudrait un jeune comédien important qui donne sa lumière sur cette et qui donne la lumière sur cette association, parce qu'on parlait de Maria Schneider. Maria Schneider, elle était vraiment dans la misère, et s'il n'y avait pas eu la Roue Tourne, je pense qu'elle n'aurait pas mangé tous les jours. Et c'est elle qui m'a présenté les gens de la Roue Tourne. Et moi, à chaque fois que j'ai, à l'époque quand j'étais agent, que je faisais l'acteur, je donnais de l'argent à la Roue Tourne pour pas recevoir l'argent. Et dès que j'ai chaque année, j'essaye de les aider un peu, mais bon, on n'est pas, il faut vraiment
appel
que
aux jeunes acteurs.
Voilà, aux jeunes acteurs.
L'appel est lancé. Dire.
Mais ceux qui ont de quoi vivre, parce qu'il y a plein d'acteurs, jeunes acteurs qui ont vécu une année très difficile, parce qu'avec le pas de théâtre, les intermittents qui ont du mal à joindre les deux bouts, mais ceux qui ont la possibilité de donner, je pense que ça serait vraiment bien.
On se retrouve dans un court instant sur RTL et on entend Michel Delpech, Quand j'étais chanteur, une de vos chansons préférées, Dominique Besnéard. À tout de suite.
J'ai 73 ans.
Le journal inattendu de Dominique Besnéard.
13h, les titres de l'actualité, Ophélie Meunier.
Le 1er mai à l'Élysée, c'était la traditionnelle cérémonie de remise du muguet. Ce matin, le chef de l'État a reçu les représentants de la filière horticole avec le président du marché de Rungis. Le 1er mai, c'est aussi et surtout les travailleurs français et leurs syndicats qui se rassemblent partout en France. Dans une heure, rendez-vous est donné à Paris, place de la République, avec un important dispositif de sécurité prévu. Les autorités craignent la présence de nombreux casseurs. 4 millions de nouvelles personnes peuvent se faire vacciner depuis ce matin. Il s'agit de tous les adultes avec comorbidité. Si vous avez entre 18 et 50 ans et que vous souffrez d'hypertension, d'obésité ou encore d'insuffisance respiratoire, vous pouvez désormais accéder au vaccin. C'est une après-midi sportive chargée avec tout d'abord en foot deux affiches. 17h PSG Lens sans l'attaquant parisien Kylian Mbappé qui souffre d'une contracture et qui se repose avant le prochain match de Ligue des Champions contre Manchester City. À 21h, Lille recevra Nice. À 4 journées de la fin de la Ligue 1, les Lillois sont toujours en tête du classement et y croient. Et puis grosse rencontre en rugby, première finale de la Champions Cup 100% française. Le Stade Toulousain sera face à l'Union Bordeaux-Bègles, une demi-finale dans l'ombre de la Covid. Mais l'enjeu sportif est là, Jean-Michel Rascol.
L'étude de l'adversaire en début de semaine en visioconférence, c'est l'un des aménagements imposés à l'UBB pour casser la contamination. Christophe Urios est le manager de l'Union Bordeaux-Bègles.
Ça gâche un peu la fête. Mais en même temps, je trouve qu'on s'est plutôt bien connecté avec le temps qu'on avait de préparation, c'est-à-dire deux entraînements. Je ne m'apitoie pas et on ne s'apitoie pas. C'est un véritable honneur. On va chercher à être à la hauteur pour aller en finale.
Même l'adversaire du jour affiche une forme d'empathie, le talonneur toulousain Julien Marchand.
Pour eux, bien évidemment que c'est plus compliqué. Et c'est comme ça, c'est le Covid, c'est la merde pour tout le monde, pas que pour dans le rugby. Nous, on se concentre sur nous. On pense à nous et on s'est préparé pour nous.
Depuis sa montée en top 14, l'UBB n'a jamais gagné à Toulouse. 9 défaites et un match nul en 10 ans. Pas sûr que ces circonstances particulières augmentent ses chances d'un plaquage inattendu sur la statistique.
Jean-Michel Rascol du service des sports d'RTL. Le temps, à 13h, c'est avec notre invité. Vous êtes prêts, Dominique
Besnier ? Alors, la météo est de la pluie toute l'après-midi de l'Alsace à la Méditerranée avec de la neige en moyenne montagne dans les Alpes. À l'arrière, des averses fréquentes, notamment du sud-ouest au Val-de-Loire. C'est près de la Manche et des côtes atlantiques que les éclaircies seront les plus généreuses. C'est la Manche, c'est où le gars ? C'est où j'ai ma maison. Les températures seront comprises entre 10 et 20. 21 degrés de Saint-Étienne à Bastia. Il fera 13 degrés à Paris.
Merci beaucoup, voilà. Dominique Besnier. C'est votre journal inattendu. On a découvert votre dernier livre, vos inspirations musicales, votre météo. Il est temps de recevoir l'invité que vous avez choisi. Bonjour, Florence Omna.
Bonjour.
Grand reporter que l'on ne présente plus. Vous vous connaissez tous les deux. Vous vous portez une admiration mutuelle. Et pour votre dernier livre, Florence Omna, L'inconnu de la Poste, énorme succès, vous avez été amené à interroger Dominique Besnier.
Interviewé.
Votre livre. Mais alors, j'ai envie de vous demander, je vous en prie, quelle différence vous faites entre les deux ?
Interroger me semble un peu plus prenante, si vous voulez, un peu plus la lampe dans la figure. Et,
dur, voilà. Okay. Alors, interviewer.
Et l'ordinateur qui saisit en direct et ensuite vous signez en bas du PV.
Je vois. Donc on est là pour s'interviewer les uns voilà. Les autres, c'est beaucoup mieux. Votre livre est une grande enquête sur un fait réel, un crime commis en 2008, l'assassinat de Catherine Burgot, 41 ans, enceinte, postière dans un village de montagne dans l'Ain. Le suspect numéro 1 est un acteur de cinéma tourmenté, installé au village, Gérald Thomassin, 20 films son actif, césarisé à 16 ans en 91 pour son rôle dans Le Petit Criminel de Jacques Doyon. On a parlé de Jacques Doyon tout à l'heure. Il se trouve, Dominique Besnier, que vous avez représenté Gérald Thomassin comme agent. Comment s'est passé votre rendez-vous justement pour cette interview ? Comment vous avez présenté le projet à Dominique Besnier, Florence Omna ?
Bon, c'était pas très compliqué, c'est-à-dire que Gérald Thomassin a été mis en examen dans cette histoire, à l'époque incarcéré. Donc je ne pouvais pas le voir. Et donc je cherchais à voir toutes les personnes qu'il avait connues, bien connues, travaillées avec lui, connues. Gérald Thomassin est quelqu'un qui a beaucoup de vies différentes. Et c'est ce qui fait sa personnalité. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui est tout à fait SDF, tout à fait vivant dans la rue, tout à fait avec une ambiance tourmentée, et à la fois vraiment acteur aussi, vraiment tapis rouge, vraiment, il a eu beaucoup de récompenses. Donc c'est ça qui était intéressant dans sa personnalité. Et donc je suis allée voir beaucoup de personnes du cinéma. Et c'est un milieu que je ne connaissais pas du tout et qui est assez compliqué en fait, parce que c'est où assez méchant, je le dis les choses, assez violent.
Ah, ça va être intéressant d'entendre Dominique réagir.
Je trouve assez dur, en fait. Oui. Comme, j'imaginais pas du tout. Ou alors, au contraire, tout à fait, je l'adore, ma petite chérie. Enfin, voilà. Et donc, j'étais assez contente de tomber sur Dominique Besnéard parce que j'avais lu son livre, le livre qu'il a écrit sur le cinéma, justement, sur sa passion des stars, voilà, exactement, et la manière de la mener sa vie. Et j'avais été assez impressionnée par le bouquin au sens où il arrivait à raconter les choses très crûment, sans justement tomber dans l'un ou l'autre de ses travers. Mmh. Donc du coup, je me suis dit, bon, ben, je vais aller sonner à cette porte-là. Alors à l'époque, Dominique avait déjà fait sa maison de production, donc il ne représentait plus Gérald Thomasin. Et donc, on en a parlé, je suis allée dans ses bureaux, avec Yakuta, qui est bien sûr, qui est la personne qui l'a représentée en même temps que Dominique. Et donc, c'était vraiment intéressant.
Dominique,
Jacques me l'avait envoyé parce que j'avais fait beaucoup de casting avec lui, notamment la Drôlesse, où on avait vécu un truc difficile. Parce qu'elle, la pauvre, elle est morte d'une leucémie. Et franchement, Jacques et moi, c'est un truc de douleur, puisqu'on est, c'est peut-être les dernières personnes qu'elle ait vues, c'est Jacques et moi à l'hôpital. Donc il y a quand même cette grande histoire. Et donc il m'avait envoyé, mais il y avait une fille avant qu'il avait choisi de trouver, c'est Marie Delobier, qui est une casting aussi formidable et qui, elle, a aussi l'a guidé beaucoup. Mm-hmm. Moi, j'aime aussi qu'on en parle parce que ce qu'elle a fait avec lui, moi, c'est rien à côté. Hein. Nous, on s'est occupé d'elle, on s'est occupé de lui professionnellement avec Yakuta, mais par moments, j'étais désarmé. Et par moments, je peux pas dire que je me dis, mais est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce que. Enfin, c'était par moments, on avait de l'espoir et on s'est dit. Il était.
Personnage compliqué à gérer.
Oui,
j'aimerais vous faire réagir sur ce que disait Florence il y a un instant. Milieu du cinéma très dur, soit extrêmement cruel, soit presque trop, ma chérie, t'es formidable.
Non, mais moi,
qu'est-ce que
vous pensez
de ça ? Surtout,
le milieu du cinéma est assez indifférent, en fin de compte. Hein. C'est très facile de dire.
C'est difficile aussi,
regardez pourquoi j'ai pris La Routourne. La Routourne, c'est quand même un endroit où des gens qui sont installés, qui ont de l'argent, pourraient aussi penser de temps en temps aux démunis. J'ai choisi ça, c'est pas du tout que j'ai des leçons à donner, mais moi, j'ai un comportement où je rends compte ce que c'est que l'argent. En étant agent, je ne suis jamais laissé avoir par l'argent, justement. Moi, j'aime les projets, j'aime l'art. Avoir de l'argent pour vivre, que les gens vivent. Et moi, je me suis beaucoup posé de questions. C'est pour ça que j'ai aussi arrêté ce métier. C'est de dire, quand les gens ne travaillent pas, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a un moment donné, on pense toujours. Mais dans mon agence, il y avait des gens qui ne travaillaient pas. Et je me posais beaucoup de questions. Mais qu'est-ce que je n'ai pas fait? Il y avait la culpabilité qui intervenait. Et pour vous dire que dans notre métier, c'est plus de l'indifférence que le côté de la méchanceté. Parce qu'ils sont méchants entre eux, c'est les gossips. Voilà. Mais l'indifférence pour des gens, dès l'instant, quelquefois, c'est tellement difficile d'être arrivé à faire ça que quelquefois, les gens oublient.
Au cours de votre longue enquête, 6-7 années, cette année ?
Oui, c'est ça, à peu près.
Florence Omna, vous avez finalement, puisqu'il est sorti de prison, pu prendre contact avec Gérald Thomasin et passer du temps, beaucoup de temps d'ailleurs avec lui. Est-ce que vous avez découvert la personne qu'on vous avait décrite ?
Oui, j'ai découvert. Vraiment, c'était le portrait était vraiment tout à fait là. Et je dois dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de carte cachée, Gérald Thomasin. Donc, il se montre tel qu'il est, sans aucune volonté de cacher un aspect de sa personnalité ou pas. Et c'est très précisément ce qui lui a nui dans cette affaire criminelle. C'est-à-dire qu'il est arrivé et aussi comme s'il était à Pantin, là où il a grandi, ou dans une grande ville française, il s'est promené canette à la main dans un village avec la radio fort, etc. Alors que ça tranche tout à fait avec un mode de vie qui est celui d'un village comme Montréal-la-Cluse où le crime s'est commis.
Thomasin a été emprisonné en 2013, libéré 3 ans après, faute de preuves suffisantes. En 2018, un nouveau suspect apparaît dans l'enquête. Vous le racontez évidemment tout ça et pourrait l'innocenter. Mais en août 2019, il disparaît mystérieusement et depuis on n'a aucune nouvelle de lui. Ce qui est étonnant, c'est qu'à ce moment-là, dans vos échanges, il vous disait qu'il était très impatient de tourner la page de cette lourde histoire, content de cette page judiciaire qui se tournait. Vous y pensez souvent à ce dernier contact que vous avez eu avec une personne qui est aujourd'hui disparue depuis presque 2 ans. Ça fait un drôle d'effet, non ?
Ça fait un drôle d'effet, surtout que je le connaissais bien. Et au bout d'un. Enfin, c'est tout à fait normal quand on suit une affaire depuis très longtemps. Et j'imagine, Dominique, quand il travaille avec un acteur, etc., c'est. On a des liens tout à fait particuliers d'intimité, à la fois de travail, mais c'est un mélange assez étonnant et que personnellement j'aime bien. J'aime bien ce genre de relations qui sont un peu de travail, un peu d'amitié, un peu de où les lignes rouges passent pas toujours là où on pense, mais je trouve que ça fait le prix des relations humaines. Et donc Gérald, c'est vrai que au bout d'un moment il est Doyon a une phrase formidable, il dit il y a pas plus attachant et pas plus désespérant. Et c'est vraiment lui.
C'est exactement lui.
C'est-à-dire qu'il est adorable et à la fois vous dites c'est pas vrai quoi.
Ouais.
Et donc effectivement, il était très content d'aller à cette confrontation, il se disait ça y est, je suis enfin innocenté, il avait pris le train, il est monté dans le train, on l'a contrôlé dans le train, donc tout ça a été vérifié. Et au dernier moment, donc il y a juste un changement à Nantes. Et à Nantes, ville où il ne connaît personne, où il n'a aucune raison de s'attarder, il se volatilise. Donc on ne le voit plus sur aucune caméra de surveillance. Son portable ne répond plus. Son compte en banque est muet aujourd'hui. Et il a été depuis innocenté. Donc il aurait toutes les raisons de réapparaître. C'est-à-dire qu'il n'a pas de raison d'être en fuite aujourd'hui.
Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Tout ça s'est raconté avec précision dans L'Inconnu de la Poste. C'est passionnant. On continue de parler de ce livre, de journalisme et de cinéma. À tout de suite sur RTL.
12h30, 13h30.
Le journal inattendu de Dominique Besnéard
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Et nous sommes toujours avec votre invité Dominique Besnéard, la grande reporter Florence Aubenas et auteur
la
du livre...
Auteur.
Et la grande auteur, oui, auteur du livre L'Inconnu de la Poste, un carton du moment aux éditions de l'Olivier. Dominique Besnéard, c'est votre journal inattendu, Florence Aubenas, c'est votre choix avant tout. Vous avez vraiment une admiration toute particulière pour ses choix et son métier de journaliste. Et
j'aime beaucoup Florence Aubenas parce que déjà l'affaire d'Outreau, moi, à l'époque, je trouvais ça quand même insensé et que elle a fait changer la loi même. Et ce que j'aime bien chez Florence, c'est que vous savez, bon, elle est journaliste, elle est dans des journaux parisiens avec Nouvel Observateur, Libération, mais elle a jamais de mépris social. Parce que moi, il y a beaucoup de gens qui sont parachutés de Paris dans des choses comme ça, et c'est sur les apparences. Elle, d'aller à Ouistreham, être avec les travailleuses et de ce livre merveilleux, on voit la réalité, mais sans côté, sans faire. Le problème, c'est comme quand les gens s'occupent d'une association, quelquefois ils parlent beaucoup de l'association, ils font quel travail. Et bien chez Florence, je sens une vérité, et moi c'est pour ça que je suis très touché, parce que faire l'enquête, parce que c'est pas seulement sur Gérald, c'est aussi sur une partie d'une région de France un peu sinistrée. Et elle parle des gens avec beaucoup de... Les portraits des gens sont jamais... Il n'y a pas de mépris social.
Vous leur avez reparlé à tous ces gens du village depuis la sortie du livre?
En partie.
Comment ils ont réagi?
Je dois dire, chaque fois que je fais un reportage, c'est vrai que... j'imagine ça doit être un peu comme... Enfin, j'ai vu en faisant ce livre qu'il y a beaucoup de parallèles entre le cinéma et bizarrement le journalisme. C'est-à-dire qu'un reportage, c'est aussi une bulle dans laquelle on s'enferme, j'imagine, comme un tournage. Et c'est aussi, on y va, on est remonté à bloc, on en veut. Et après, le résultat, des fois, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça s'est passé? Etc.
Et donc, comment ça va être pris?
Comment ça va être pris, ouais. Exactement. Comment le film va être reçu? Nous, comment le reportage? Est-ce qu'on tend, en particulier aux gens que je vois, qui ne sont pas des professionnels, du tout, ni de la communication, ni de ce genre de choses. Et on leur tend malgré eux. Vous avez été dans un village où il y a un meurtre, votre fille a été assassinée, et voilà, je vous tends un miroir, et c'est vous, et vous devrez être bien content et me dire merci. Donc c'est pas facile pour les gens non plus. C'est très violent comme attitude. Et donc moi, c'est toujours ma grande peur quand je fais un article ou un livre. C'est ça, c'est qu'est-ce qu'on va penser? Est-ce que les gens vont se sentir... vont se reconnaître? Est-ce qu'ils vont se sentir trahis? Est-ce qu'ils vont se dire, celle-là, elle est venue, elle nous a fait les poches, et maintenant... C'est ça, il y a un côté... Et donc, là, pour l'instant, c'est ça va. Ouais. Mais je marche sur un fil, et je dois dire, j'y retourne le mois prochain. J'espère y passer un peu de temps, et donc là, je vois... Oui, pour ça, parce que je pense qu'il faut prendre le temps, il ne faut pas juste passer un coup de fil en disant, alors, tout va bien.
C'est là toute la différence avec des gens de cinéma, parce que des gens de cinéma, quand ils vont dans une région tourner... moi, quand j'avais fait, par exemple, le film de Daniel Vigne avec Nathalie Baye, Martin Guerre, moi, j'étais resté très longtemps pour faire la préparation, pour tout. Je suis resté pendant tout le tournage, et après, tout le monde est parti, et moi, j'ai continué à voir les gens. Mmh. Et voilà, parce qu'on ne peut pas s'arrêter. Ouais. On passe quand même 2 mois avec ces gens-là. Et puis donc...
On marque leur vie.
Et puis voilà, ouais.
Eux, c'est un épisode fort dans leur vie.
Il
ne
faut jamais utiliser les gens. Il faut essayer de, voilà, de garder... En même temps, les gens ont d'autres activités. Mais moi, ça a toujours été... C'est pour ça que j'aimais bien faire des films en province. Parce que je gardais des contacts après.
Dominique Besnard, votre film préféré, qui vous a d'ailleurs inspiré pour la série 10%, c'est La règle du jeu de Jean Renoir. Film en noir et blanc sorti en 1939, extrait.
Ben voilà, tout s'arrange. Vous êtes contente ?
Oui, enchantée. Enfin, on commence à jouer carte sur table.
Les femmes, elles sont bien gentilles, je les aime bien. Je les aime trop même. Mais c'est à cause des ennuis.
À qui le dis-tu ?
J'ai beaucoup de sympathie pour vous. Mais
je vous ennuie.
Vous me direz ce que vous voudrez, mais ça, c'est un homme du monde.
Oh, moi, je ne voudrais faire de peine à personne. Surtout pas aux femmes.
Elle m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas...
Mais je vous ennuie.
Ennuie. Vous avez des mots, ma chère.
C'est le mot exact.
Monsieur le Marquis veut plaisanter.
Je savais que Monsieur le Marquis me comprend. Il reste un homme intelligent, lui. C'est pas comme ta grande brute.
Grande brute. Mais t'as pas la politesse.
Qu'est-ce que j'ai fait pour un petit
lapin? On devrait avoir le droit de faire un petit lapin.
De rien du tout.
Truffaut disait que c'était le film des films. Jean Renoir vous inspire aussi ?
Oui, bien sûr, ça, c'est difficile de dire oh non, Jean Renoir.
Ouais, c'est
complètement... Mais je regrette pour les auditeurs qu'il n'ait pas suivi comme nous. Le film s'imprimait sur le visage de Dominique Besnéa, qui vivait chaque personnage. C'était quelque chose de très émouvant.
D'abord, c'est un film d'acteur parce que je trouve que c'est la règle du jeu. Ben, c'est tout ce qu'on vit actuellement, tout le temps. C'est la comédie humaine. Hein. Ça aurait pu être Balzac. Hein. Et puis, il y a du Marivaux quand même. C'est que les gens des cuisines voudraient être des nobles, tout ça. Non, et pourquoi s'il y a un parallèle avec 10%, on n'a pas fait 10% pensant à Renoir. C'est avec, j'essaye de trouver des points de rapprochement, mais c'est parce qu'il y a, les gens qui sont dans les cuisines, dans les bureaux, qui font des contrats, qui voient qu'autant d'acteurs gagnent ce qu'ils gagnent, alors qu'ils leur disent même pas bonjour. Il y a ça, et puis il y a les stars qui arrivent. C'est pour ça que je trouve qu'il y a un parallèle. Voilà.
Et côté musique, voici une interprète qui vous fait rêver, Dominique Besnéard, Maria Callas, qui chante la Wally. Journalisme, cinéma, musique, on a eu l'impression de ne faire qu'un pendant
c'est vrai.
Ce quart d'heure.
C'est vrai, c'est... Il y a beaucoup de liens, en effet. Et c'est vrai, la chose qui m'a beaucoup frappée aussi dans ce que racontait Gérald sur un tournage, moi je connais pas du tout ce milieu. Je vais au cinéma comme tout le monde, j'adore ça. Mais je connais pas le milieu du cinéma, je dirais pas ça. Et ce qui m'a beaucoup frappée, c'est à quel point un acteur tourne un film... Et ensuite se retrouve, j'ose pas dire, lâché, le tournage s'arrête, les projecteurs s'éteignent, et un gamin comme lui, je dis gamin alors qu'il avait 40 ans, hein, un gamin comme lui se retrouve, sur le trottoir. Si vous n'avez pas une famille un peu autour de vous, quelqu'un, l'atterrissage est très sévère.
Et on le comprend très très bien en vous lisant. L'inconnu de la Poste aux éditions de l'Olivier. Merci beaucoup, Florence Aubert.
Merci à vous.
Vraiment un plaisir de vous recevoir. Dominique Besnéard, vous restez avec nous puisqu'on a une petite surprise pour vous. Oui. C'est dans un très court instant sur RTL. À tout de suite.
12h30, 13h30.
Le journal inattendu de Dominique Besnéard
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Et comme promis, une petite surprise est en ligne avec nous. Vous vous êtes rencontrés tous les deux en 2019. Votre invité surprise et son époux ont été vos invités d'honneur au Festival d'Angoulême de cette année-là, 2019. Une rencontre qui vous a marqué, vous qui êtes fasciné par les royautés. Est-ce que ça vous donne une petite idée ?
La Grande Duchesse.
Mais bonjour, Son Altesse Royale, la Grande Duchesse du Luxembourg. Il a trouvé.
Bonjour, Ophélie.
Bonjour Dominique.
Ça me fait super plaisir, d'autant plus que j'ai été contacté par quelqu'un de votre entourage et je n'ai pas, j'ai perdu le téléphone. J'ai envoyé. Vous allez me donner votre téléphone parce que je vais vous rappeler pour faire un témoignage.
Ah mais formidable. Voilà.
Merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être avec nous. C'était une vraie surprise.
Ah ben très une grande surprise.
Alors
vraiment.
Pour expliquer le contexte, Dominique Besnard, l'un de vos grands projets est de produire un film sur Baudouin, roi des Belges. Et il se trouve que l'époux de son Altesse royale est le neveu de Baudouin. Donc vous avez beaucoup échangé ensemble sur ce projet. Puis en 2019, quand le Luxembourg était à l'honneur au Festival d'Angoulême, vous les avez invités tous les deux et vous avez passé un excellent moment ensemble, n'est-ce pas, son Altesse royale?
Oui, merveilleux, merveilleux. Dominique, vous avez été si prévenant avec nous, adorable, et avec Marie-France, on a passé un séjour inoubliable. Et d'autant plus que vous avez mis le Luxembourg à l'honneur, le cinéma luxembourgeois à l'honneur cette année-là, et qu'en plus, avec le jury qui était présidé par cette merveilleuse Jacqueline Bisset, que nous aimons tant, le jury a choisi les Hirondelles de Kaboul comme gagnants.
Oui.
Vous vous souvenez qui était la coproduction franco-luxembourgeoise.
Oui,
donc c'était vraiment carton plein.
Et moi, je vais vous dire une chose. Moi, je vous ai beaucoup apprécié parce que vous êtes une femme vraiment de cœur et surtout vous êtes quelqu'un de très curieuse. Et quand vous avez bien sûr un rôle comme ça d'honneur et tout, mais quand vous parlez et que on est en face de vous, vous montrez vraiment beaucoup d'empathie et je vous aime beaucoup et j'aime beaucoup aussi le Grand-Duc. Et alors moi, je vais vous faire quelque chose, une confidence. J'étais au Luxembourg hier.
Non.
Pour la journée, parce que j'ai été voir un film de Nicolas Stel, donc le titre est provisoire, avec Simon Abkarian, qui est vraiment une réussite. Et je suis très content que ce soit un grand film luxembourgeois, même s'il y a de l'argent belge. Et je pense que vous allez être obligé de revenir à Angoulême.
Et la prochaine fois que vous irez au Luxembourg, il faut absolument passer
J'arrivais le matin et je repartais le soir. J'allais que pour voir ce film. Et donc je peux vous dire que vous avez un très beau film luxembourgeois, qui va être sur les étagères, qui va être présenté bientôt, parce qu'il n'était pas terminé.
Et son Altesse royale, je crois que Dominique vous a fait découvrir sur le tard la série 10%, dont vous ne pouvez plus vous passer.
Oui, absolument.
Hein,
mais Dominique, c'est une merveilleuse nouvelle de retourner à Angoulême. Absolument.
Et puis moi, je vais vous dire aussi autre chose. Et le roi Baudouin, on avance parce que c'est, faut faire très attention quand on fait un sujet historique. Il faut vraiment être très juste. Et là, je pense qu'on est près du scénario, donc on va bientôt envoyer le scénario.
Donc ça, c'est une info. Le projet film sur le roi Baudouin avance vraiment.
Oui, c'est Philippe Vandeleu et on va tourner. Ça sera en Belgique et en France. On va trouver l'argent français. Mais on a, vous savez, le scénario, on a mis du temps. En plus, c'est pour parler d'un sujet assez délicat. C'est quand le Baudouin a abdiqué de 3 jours parce qu'il ne voulait pas signer la loi pour l'avortement, mais il voulait pas empêcher qu'il y ait la loi, mais lui pouvait pas la signer.
C'était contre ses principes.
Non, mais moi je trouve ça très bien que les gens aient des principes. Mmh. Et François Mitterrand avait parlé avec Nathalie Baye de cet événement. Et franchement, il voulait pas empêcher le cours de l'histoire, mais lui personnellement, il pouvait pas.
Exactement. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que le roi et la reine, le roi Baudouin et la reine Fabiola n'ont pas pu avoir d'enfants.
Oui, elle a fait des fausses couches. C'est terrible.
C'était
pour eux.
Très douloureux.
Et en plus, il y avait aussi des questions religieuses. Mais c'est pour dire qu'il avait... le roi règne, mais ne gouverne pas. Mais quand on règne, on doit signer. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose...
qui donne très envie de voir le film. Voilà.
Alors là, je suis vraiment très touchée parce que je me suis dit, ils vont me trouver encore une copine actrice. Et moi, je suis ravie ce soir.
Non, c'était une surprise inattendue et extrêmement touchante. Merci beaucoup. C'est vraiment un honneur de vous entendre, son Altesse.
Mais merci mille fois. Je me souviens avec joie à Angoulême, vous m'avez permis de découvrir votre merveilleuse série 10% que je dévore.
Voilà. Bon, ben super.
Merci.
Merci. Et puis, j'imagine que vous allez vous rappeler très, très vite.
À bientôt, Félix.
À très bientôt, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre Art Média, Dominique Besnéard. Pour écouter cette émission à direction l'appli RTL, tout de suite c'est Confidentiel avec Jean-Alphonse Richard. Numéro consacré à Larry Flynt. Mon invité la semaine prochaine, Luc Ferry. Passez un excellent week-end à samedi prochain, 12h30. On se quitte sur une de vos chansons préférées, Dominique Besnéard.
Dalida,
Dalida,
qui m'a
mon ami sur scène.